Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une idée du divin qui soit elle-même intégrale?
Qu'est-ce que ça peut vouloir dire?
Chacun se fait une idée selon son goût personnel, ses possibilités de compréhension, ses préférences mentales et même ses désirs. On se fait l'idée du divin que l'on veut, du divin que l'on désire rencontrer. Et alors, naturellement, on limite considérablement sa réalisation. Mais si on peut arriver à comprendre que le divin est tout ce que nous pouvons concevoir et infiniment plus, alors nous commençons à nous acheminer vers l'intégralité. L'intégralité est une chose extrêmement difficile pour une conscience humaine, qui ne commence à être consciente qu'en l'imitant. Et enfin, avec un petit effort, et pour ceux qui savent jouer avec les activités mentales, c'est possible d'élargir suffisamment pour approcher de quelque chose d'intégral. Tu te fais une idée du divin, n'est-ce pas? Elle est en accord avec ta propre nature et ta propre conception. Alors, quand, si tu veux sortir un peu de toi-même et tâcher de faire justement un yoga intégral, il faut que tu essayes de comprendre que le divin n'est pas seulement tel que tu le penses ou tel que tu le sens, mais il est aussi comme le pense et le sent de tous les autres, et en plus quelque chose que personne ne peut penser et ne peut sentir. Alors si tu comprends ça, je te dis, tu as mis le premier pas vers l'intégralité. Instinctivement et sans même s'en rendre compte, les gens s'obstinent à vouloir que le divin soit en accord avec leur conception. Parce que tout spontanément, s'ils ne réfléchissent pas, ils vous disent « Oh, ça c'est divin, ça, ça ne l'est pas. Qu'est-ce qu'ils en savent ?» Et puis, n'est-ce pas, les gens qui n'ont pas encore mis le pas sur le chemin, qui arrivent, qui voient les choses, qui voient les gens, et qui vous disent, cet ashram n'a rien à faire avec le divin, c'est pas du tout divin. Mais si on leur demande qu'est-ce qui est divin, ils seraient bien en passé de le dire. Ils n'en savent rien, n'est-ce pas? Et moins on sait, plus on juge. Ça, c'est un fait absolu. Plus on sait, moins on peut prononcer de jugement sur les choses. Et il y a un moment où tout ce que l'on peut faire, c'est une constatation. Mais juger, c'est impossible. On peut voir les choses, les voir comme elles sont dans leur relation et dans la place qu'elles occupent avec la conscience de la différence entre la place qu'elles occupent et celle qu'elles devraient occuper. parce que ça, c'est le grand désordre dans le monde. Mais on n'y juge pas. Simplement, on voit. Et il y a un moment où on serait incapable de dire ça c'est divin et ça, ça ne l'est pas. Parce que il y a un moment où on perçoit tout l'univers d'une façon si totale et compréhensible qu'à vrai dire, il est impossible d'en retirer quelque chose sans tout déranger. Et encore un ou deux pas de plus. Et on sait de façon certaine que ce qui nous choque comme étant en contradiction avec le divin, c'est tout simplement des choses qui ne sont pas à leur place. Mais que si chaque chose était exactement à sa place, et en plus, qu'elle soit assez souple, assez plastique, pour admettre dans une organisation harmonieuse, progressive, tous les nouveaux éléments qui s'ajoutent constamment à l'univers manifesté. L'univers est en perpétuel mouvement de réorganisation intérieure et en même temps, il s'agrandit, pour ainsi dire, ou se complique de plus en plus, devient de plus en plus complet, de plus en plus intégral, et cela indéfiniment. Et à mesure que les éléments nouveaux se manifestent, toute la réorganisation doit être refaite sur une base nouvelle, ce qui fait qu'il n'y a pas une seconde que tout ne soit dans un mouvement perpétuel, mais que si le mouvement est selon l'ordre divin, il est harmonieux, si parfaitement harmonieux qu'il n'est presque pas perceptible, qu'il est difficile de le percevoir. Maintenant, si on redescend de cette conscience vers une conscience plus extérieure, naturellement, on commence à sentir d'une façon très précise les choses qui vous aide à atteindre à la vraie conscience et celle qui barre le chemin ou qui tire en arrière ou qui même lutte contre l'avance. Et alors le point de vue change et on est obligé de dire que ça, c'est divin ou ça aide vers le divin, et ça, c'est contre le divin, et que c'est l'ennemi du divin. Et ça, c'est un point de vue pragmatique pour l'action, pour le mouvement dans la vie matérielle, parce qu'on n'a pas encore atteint à la conscience qui dépasse tout cela, parce qu'on n'est pas arrivé à cette perfection intérieure qui fait qu'on n'a plus à lutter parce qu'on a dépassé la zone de la lutte ou le temps de la lutte ou l'utilité de la lutte. Mais avant ça, avant qu'on soit arrivé à cet état-là, dans sa conscience et dans son action, il y a nécessairement lutte, et s'il y a lutte, il y a choix. Et pour le choix, il faut le discernement. Et le plus sûr moyen d'avoir le discernement, c'est une soumission consciente, volontaire, et aussi totale que possible, à la volonté et à la direction divine. Alors on ne risque pas de se tromper. Et de prendre des fausses lumières pour des vraies.
Les parties dynamiques de l'être. Quelles sont les parties dynamiques de l'être?
Généralement, c'est le vital. C'est tout ce qui a une volonté, un élan, un enthousiasme. Ça dépend du point de vue, on ne peut pas dire ça. Parce que il y a une attraction potentielle, mais tellement voilée et tellement secrète qu'on ne peut même pas la reconnaître comme une chose existante. dans la matière qui a une apparence d'inertie. C'est seulement une apparence, mais enfin, qui a cette apparence d'inertie, l'attraction vers le divin est une possibilité plus qu'un fait. C'est-à-dire quelque chose qui se développera, mais qui n'existe pas encore d'une façon perceptible. On peut dire que toute conscience est, en le sachant ou sans le savoir, même si elle ne le sait pas, elle gravite vers le divin. Mais il faut qu'il y ait déjà conscience pour pouvoir affirmer ça. Et même dans les êtres humains qui sont pour le moment sur la Terre les êtres les plus conscients, il y en a une immense majorité qui sont potentiellement attirés vers le divin mais qui n'en savent rien. Et il y en a même qui délibérément refusent cette attraction. Peut-être que dans leur refus, derrière lui, il y a quelque chose qui se prépare, mais ce n'est ni volontairement ni sciemment. Et alors, la fin de ta question, c'était quoi? D'abord, tu postules une chose qui n'est pas correcte, et là-dessus, tu poses une question qui naturellement ne tient pas debout parce que le postulat n'était pas correct. Oui, oui, je sais très bien ce que tu veux dire. Mais en fait, finalement, toute aura à être attirée par le divin. Seulement, il y a des chemins directs et il y a des chemins en labyrinthe où on semble s'éloigner pendant très longtemps avant de se rapprocher. Et il y a des êtres qui ont choisi le chemin en labyrinthe et qui ont l'intention d'y rester aussi longtemps qu'ils peuvent. Alors, apparemment, ce sont des êtres qui luttent contre le divin. Quoique ceux qui sont d'une nature supérieure savent très bien que c'est une lutte absolument vaine et inutile, et qui sera sans résultat, mais ils prennent plaisir à le faire. Même si ça doit les mener vers la destruction, ils ont décidé qu'ils le feraient. Comme il y a des gens, des hommes, des êtres humains, je veux dire, qui se livrent au vice, et qui savent très bien un vice ou un autre, n'est-ce pas, comme les boissons alcooliques ou les piqûres anesthésiques, etc. Eh bien, ils savent très bien que ça les conduit à la destruction et à la mort, mais ils choisissent de le faire sciemment. Hein? Il y a toujours un moment où tout le monde a le contrôle. Et si on n'avait pas dit oui une fois, si on n'avait pas pris la décision, on ne le ferait pas. Il n'y a pas un corps humain qui n'ait l'énergie et la capacité de résister à une chose qui lui est imposée si on le laisse faire. Les gens qui vous disent « je ne peux pas faire autrement », c'est parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils ne veulent pas faire autrement. Ils ont accepté d'être les esclaves de leur vie. Il y a un moment où on accepte. Moi, je vais plus loin, je dis qu'il y a un moment où on accepte d'être malade. Et que si on n'acceptait pas d'être malade, on ne le serait pas. Seulement, les gens sont tellement inconscients d'eux-mêmes et de leurs mouvements intérieurs qu'ils ne s'aperçoivent même pas qu'ils font. Mais tout dépend de la façon dont on regarde les choses. Et à un certain point de vue, il n'y a rien qui soit totalement inutile dans le monde. Seulement, les choses qui étaient tolérables et admissibles à un certain moment, ne sont plus à un autre. Et c'est quand elles ne deviennent, plus admissibles qu'on commence à dire qu'elles sont mauvaises. Parce qu'il y a là une volonté qui s'éveille de les chasser. Mais dans l'histoire universelle, on peut même dire dans l'histoire terrestre, en réduisant le problème à notre petite planète, je pense que toutes les choses qui existent ont eu leur nécessité et leur importance à un moment donné. Et c'est à mesure que l'on avance que ces choses sont repoussées ou remplacées par d'autres qui sont des choses de l'avenir au lieu d'être des choses du passé, alors les choses qui n'ont plus de raison d'être, on dit elles sont mauvaises. Parce qu'en essayant de trouver en soi un levier pour les repousser, pour rompre avec l'habitude. Mais peut-être qu'à un moment donné, elles n'étaient pas mauvaises et qu'il y en avait d'autres qui l'étaient. Il y a des choses, des manières d'être, des manières de sentir, des manières de faire, que l'on tolère dans son être pendant fort longtemps et qui ne vous gênent pas, qui ne vous paraissent pas du tout inutiles ou mauvaises. Ou à éliminer. Et puis tout d'un coup, un jour, on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé, mais la façon de voir change. On les regarde et on dit, mais comment? Ça, c'est en moi, je porte ça en moi, mais c'est intolérable. Mais je n'en veux plus. Et ça vous paraît tout d'un coup mauvais parce que c'est le moment de les rejeter. Parce qu'elles ne sont pas en accord avec l'attitude que vous avez prise ou le pas que vous avez fait, votre marche en avant dans le monde. Ces choses-là devraient être ailleurs, elles ne sont plus à leur place. Alors vous les trouvez mauvaises. Mais peut-être que ces mêmes choses qui vous paraissent mauvaises seraient excellentes pour d'autres gens qui sont à un degré inférieur. Il y a toujours plus sombre, plus inconscient, plus mauvais, plus ignorant que soi. Alors l'état qui pour vous est intolérable, que vous ne pouvez plus garder, qui doit s'en aller, serait peut-être très lumineux pour des gens qui sont à des échelons en bas. Alors de quel droit dire c'est mauvais? On peut seulement dire j'en veux plus. Je n'en veux plus, ça ne va pas avec ma manière d'être actuelle. Moi je veux aller à un endroit où ces choses n'ont plus de place. Elles ne sont plus à leur place, qu'elles aillent prendre leur place ailleurs. Mais on ne peut pas juger. Il est impossible de dire c'est mauvais. On peut au plus dire c'est mauvais pour moi. Ce n'est plus à sa place avec moi. Ça doit s'en aller. C'est tout. Si on laisse tomber sur le chemin. Et ça facilite beaucoup, beaucoup de progrès. De penser et de sentir comme ça. Au lieu de s'asseoir en désespoir et de se dire toutes sortes de choses lamentables sur comment on est, de la misère que l'on porte, et les défauts que l'on a, et les impossibilités qui vous assaillent et tout ça. On dit non. Ces choses-là ne sont plus à leur place ici, qu'elles s'en aillent ailleurs. Là où elles seront à leur place, elles sont les bienvenues. Moi, j'avance. Je vais gravir un échelon, j'irai vers une lumière plus pure et meilleure et plus totale. Et alors, toutes ces choses qui aiment l'obscurité, elles doivent s'en aller. Mais c'est tout. Chaque fois qu'on voit en soi quelque chose qui vous paraît vraiment vilain, eh bien ça prouve qu'on a fait un progrès. Alors au lieu de se lamenter, de se désespérer, on doit être content, on dit, ah, c'est bon, je marche. C'est tout.
Ah.
Ça, j'ai rien entendu. Qu'est-ce qu'il dit?
Un yoga puissant.
Qu'est-ce que ça veut dire un yoga puissant?
Oh,
il y a écrit là un yoga puissant. Ça veut dire un yoga puissant. Vous ne savez pas ce que ça veut dire, puissant?
Non, particulièrement, il a dit...
Un yoga faible, c'est le contraire d'un yoga puissant.
Non, mais il dit que cette préparation intellectuelle, c'est en vérité le premier pas dans un yoga puissant.
Oui.
Mais il n'est pas indispensable.
Oui. Un yoga puissant, c'est un yoga très complet, qui contient beaucoup de choses, qui embrasse beaucoup d'éléments. Alors cet élément de connaissance intellectuelle rend le yoga plus puissant. Hein? Pas tout à fait. Un yoga intégral, ça veut dire qu'il comporte toutes les parties de l'être. Et toutes les activités de l'être. Mais les activités de l'un ne sont pas aussi puissantes que les activités de l'autre. Et l'intégralité de l'un n'est pas aussi totale que l'intégralité de l'autre. comprenais pas. Si tout votre être, tel qu'il est, participe au yoga, c'est pour vous un yoga intégral. Mais votre participation peut être très faible et très médiocre à côté de celle d'un autre. Et le nombre d'éléments de conscience que vous contenez peut être minime à côté de l'élément de conscience contenu dans un autre. Et pourtant, votre yoga est intégral pour vous. C'est-à-dire qu'il est fait dans toutes les parties et toutes les activités de votre être. Moi, j'avais un chat qui faisait le yoga. Eh bien, le yoga du chat ne pouvait pas être aussi puissant que le yoga de l'homme. Et pourtant, il était tout aussi intégral, il était tout entier. Même son corps participait à son yoga. Et à sa manière, naturellement, qui n'était pas humaine. L'idée force dynamique, c'est une idée qui vous donne de la volonté, de l'enthousiasme et un pouvoir de réalisation. Une chose dynamique, c'est une chose qui tend vers la réalisation et qui vous donne l'élan vers la réalisation. Qu'est-ce qu'il dit?
Plus est grande et large, plus est forte dynamique, sur laquelle se fonde la consécration.
Oui, alors, qu'est-ce qui l'embarrasse? Vous n'avez jamais senti la différence entre une petite idée et une grande idée? Une idée étroite et une idée large?
Avant, il a dit que si ceux qui peuvent accompagner par le don de soi.
Oui.
Après, il dit, mais si c'est large, c'est mieux.
Écoutez. Je vais vous donner un exemple tout à fait concret et matériel. Vous faites le don de votre porte-monnaie. Il contient 3 roupies. Votre voisin fait le don de son porte-monnaie qui en contient 50. N'est-ce pas? Eh bien, le don de 50 est plus large que le don de 3. C'est tout. Mais, au point de vue moral, si vous avez donné tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez fait le maximum de ce que vous pouviez faire. Rien de plus ne peut vous être demandé. Vous comprenez? Au point de vue moral, au point de vue spirituel pur, pas au point de vue de la réalisation, notez. Au point de vue spirituel pur, le don de vos 3 roupies a exactement la même valeur que le don des 50 roupies. Au point de vue spirituel pur, si vous avez donné tout ce que vous aviez. Et même si celui qui a 50 roupies, s'il en a réservé une, son don est moins intégral et moins pur que le vôtre, que vous ne donnez que 3. Par conséquent, c'est, n'est-ce pas, ce n'est pas sur ce plan-là qu'il faut voir la chose. Mais au point de vue réalisation matérielle, il est indéniable que 50 est plus que 3, pour tous ceux qui savent les mathématiques. Le message que j'ai donné cette année, quoi? Qu'est-ce que tu lui reproches? Moi, je vous ai demandé l'autre jour ce qu'il voulait dire. J'ai demandé, ce n'est pas en classe que j'ai demandé. J'ai demandé, qu'est-ce que ça veut dire ce que j'ai dit? Personne n'a pu me répondre. Ça veut peut-être dire une chose très simple, qu'il vaut mieux laisser les choses se faire sans en parler. Moi, je crois que c'est ça que ça veut dire. Qu'il est très préférable de ne rien dire sur ce qui sera avant que ça ne soit. Parce que c'est ça que j'appelle les coups de tambour et qu'on pourrait appeler du battage. C'est comme les gens qui vous demandent comment est-ce que ça sera. On verra bien. Attendez, il faut moins avoir la surprise. Et je leur réponds, je n'en sais rien. Parce que je me mets immédiatement dans la conscience du monde tel qu'il est, à qui on annonce qu'il va se passer des choses extraordinaires et qui est tout à fait incapable de les imaginer. Parce que je vous ai dit une fois que si on commence à les imaginer, ça veut dire que c'est déjà là. Pour que vous soyez capable d'imaginer quelque chose, il faut que ça existe. Autrement, vous ne pouvez pas l'imaginer. Alors, oui, dans notre être supérieur, nous pouvons avoir une perception très claire, très exacte, très lumineuse de ce que c'est. Mais si vous descendez dans votre conscience matérielle, on est obligé de dire, ben je n'en sais rien. Hein? Quand ça sera là, je vous dirai comment ça sera. Et je n'aurai même pas besoin de vous le dire, probablement vous pourrez le voir. J'espère que vous ferez partie de ceux qui pourront le voir. Parce que ça encore, il y en a qui ne pourront pas. Et alors, à quoi ça sert? À quoi ça sert de leur dire ça, c'est là, vous savez, c'est comme ça? Ils vous répondent comme il y avait dans une pièce qu'on a jouée, mais moi je ne vois rien. Vous vous rappelez comment ça s'appelait, le sage? Vous vous rappelez pas de ça? Dans le sage, il y a le messager qui dit que le divin est là, qui vous écoute, qu'il est présent. Et alors, il y en a un qui répond, mais je ne le vois pas. Ah, papa. Mais c'est comme ça. Comme les gens qui viennent visiter la chambre et qui disent, mais il n'y a pas de spiritualité ici. Comment est-ce qu'ils pourraient le voir? Avec quels organes? Mais enfin, j'ai bon espoir que quand quelque chose se manifestera, vous serez capable de le percevoir. Naturellement, si tout d'un coup, il y avait des apparitions lumineuses, ou que les formes physiques extérieures changent complètement, alors là, vous... Là, je crois même qu'un chien ou un chat, ou n'importe qui, s'en apercevrait. Mais ça, c'est... Ça prendra du temps. Pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite. Pour beaucoup plus tard. Beaucoup de grandes choses prendront place avant ça. Et qui sont beaucoup plus importantes que ça, notez. Parce que ça, c'est seulement la fleur qui s'épanouit. Mais avant qu'elle s'épanouisse, il faut qu'elle... que le principe de son existence soit dans la racine de la plante.
Est-ce que ça serait une manifestation,
est-ce que ça sera pour ma spirituelle, c'est-à-dire seulement les gens qui font du yoga pour le percevoir, ou est-ce qu'il y aura quelques conséquences dans le monde après?
Mon petit,
pourquoi tu mets ça au futur? Il y a déjà, depuis des années, des conséquences extraordinaires, fantastiques, dans le monde. Mais pour les voir, il faut savoir un peu. Autrement, on prend ça pour des choses tout à fait normales et ordinaires, parce qu'on ne sait même pas comment ça se produit. Alors ça pourra être exactement la même chose. Il pourra y avoir des changements formidables, des actions fantastiques. Naturellement, c'est comme ça. Parce qu'on ne sait pas comment ça se passe. Une action dans le monde, c'est constant. C'est quelque chose qui se et qui agit partout, qui donne partout des impulsions nouvelles, des orientations nouvelles, des idées nouvelles, des volontés nouvelles, partout. Mais enfin, comme on ne voit pas comment ça se fait, on pense que c'est tout. Ce que l'on appelle tout naturel. C'est tout naturel, mais d'un autre naturel que celui de la nature physique ordinaire. Au fond, il est assez logique de dire qu'il faut être conscient de l'esprit pour s'apercevoir du travail de l'esprit. Si vous n'êtes pas conscient de l'esprit, comment pouvez-vous le voir travailler? Parce que le résultat de ce que l'esprit fait est nécessairement matériel dans le monde matériel, et que vous, étant matériel, vous le trouvez tout naturel. Qu'est-ce que vous savez de ce que la nature fait? Et qu'est-ce que vous savez de ce que l'esprit fait? Tout ce que la nature fait, je parle de la nature matérielle, on en sait très peu, presque rien, puisqu'on a tout le temps à apprendre des choses qui bouleversent tout ce que l'on croyait savoir auparavant. Et alors, comment distinguer ce qui est l'œuvre de la nature pure et l'œuvre de l'esprit à travers la nature? Il faudrait savoir les distinguer l'un de l'autre. Comment les distinguer quand on n'a pas une conscience tout à fait limpide et certaine de ce que c'est que l'esprit? Comment le reconnaître et comment voir son travail? Ça me paraît une logique très simple. Le monde continuera. Les choses se passeront. Et il y aura peut-être une poignée d'hommes qui sauront comment elles ont été faites. C'est tout. Et si l'on était, à l'heure actuelle, précipité soudainement, sans transition, dans ce que le monde était, mettons, 2 ou 3 000 ans auparavant, ou même moins que ça, peut-être 1000 ou 2 000 ans, ce serait une comparaison tellement suffocante qu'il est probable qu'il y a très peu de gens qui pourraient y résister. Mais comme ça s'est fait comme ça, n'est-ce pas, avec l'aimable lenteur de la nature, avec toutes ses fantaisies, on trouve ça tout à fait naturel. Et on ne s'en aperçoit même pas. Ce n'est pas une image, ce n'est pas de la littérature. Quand on dit que, quand on entre dans la conscience vraie, quand on change la conscience, eh bien, le monde lui-même change pour vous. Ce n'est pas seulement une apparence ou une impression. Ou... On voit autre chose que ce que l'on voit dans la conscience ordinaire. Les relations sont différentes, les causes sont différentes, les effets sont différents. Et au lieu de percevoir seulement quelque chose qui est pas transparent, on ne voit pas derrière. C'est une surface, une croûte. C'est seulement ça qu'on voit. Et on ne voit même pas ce qui meut ça, ce qui le fait exister. Tout se renverse. Et c'est ça qui paraît artificiel et irréel et presque inexistant. Et alors, c'est quand on voit les choses de cette façon-là, d'une façon normale, n'est-ce pas? Pas qu'on se force et qu'on soit obligé de faire des méditations et des concentrations et des efforts formidables pour voir les choses comme ça. Quand c'est votre vision normale, naturelle, alors on comprend les choses d'une façon totalement différente, naturellement. Le monde est différent. Il y a un petit trajet préliminaire qui est indispensable. Et ceux qui l'ont fait, ce petit trajet préliminaire, eh bien, il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de spéculations et de questions qu'ils ne peuvent plus se poser. Mais vraiment, pour en revenir à notre sujet, ce que j'ai voulu dire, très simplement, c'était un jour, n'est-ce pas, au moment où on me demande un message, parce que je le donne parce qu'on me le demande. On me demande et on me dit, oh, est-ce que nous voulons l'imprimer? Est-ce que vous ne pouvez pas nous l'envoyer? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je regarde l'année qui vient, n'est-ce pas? Pour pouvoir en parler ou dire quelque chose d'elle, il faut que je la regarde. Je regarde l'année qui vient. Et puis, en la regardant, je vois en même temps toutes les imaginations des gens, toutes leurs spéculations et toutes leurs inventions sur ce qui va se passer dans cette année soi-disant merveilleuse. Je regarde ça, et puis en même temps je regarde ce qu'elle est en avance déjà. Elle est comme ça quelque part, ce qu'elle est. Je me rends compte immédiatement que la meilleure chose à faire, c'est de ne pas dire ce qu'elle sera. Et comme les gens s'attendent à beaucoup de fanfares et de proclamations, je dis que ce que j'ai dit, c'est tout. Rien de plus. C'est tout ce que je voulais dire. N'en parlons pas, voulez-vous? Ça vaut mieux. C'est préférable. Je n'ai pas dit autre chose que ça. Il vaut mieux pas en parler. Faites pas beaucoup de bruit à propos de ça, parce que ça n'aide pas. Laissez les choses se passer selon une loi plus profonde, sans avoir l'ahurissement du... L'ahurissement de... Oh. Enfin, de celui qui ne fait pas et qui regarde faire. Et surtout, ne venez pas dire, vous savez, ça sera comme ça. Parce que ça, c'est ce qui rend la chose le plus difficile. Je ne dis pas que ce qui doit être ne sera pas, mais ça sera peut-être avec beaucoup plus de difficultés si on en parle. Alors, il vaut mieux laisser les choses se faire. Et après tout, si on veut être très sobre, très sobre. Il n'y a qu'à se demander, eh bien, dans 10 000 ans, cette réalisation que nous sommes en train de faire, qu'est-ce que ça sera? Un point imperceptible dans la marche du temps. Une préparation, une tentative pour les réalisations futures. Oh, il vaut mieux ne pas s'emballer. Faisons ce que nous pouvons et tenons-nous tranquilles. Maintenant, il y a des gens qui ont besoin qu'on les fouette comme on fouette la crème. Mais il faut s'adresser au poète, pas à moi, je ne suis pas là. Je me contente de faire, j'aime mieux faire que parler. Voilà. Maintenant, c'est tout. C'est tout. Vous tenez à la méditation. Vous y tenez.